Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Women of the Seas. Le podcast des aventurières de la mer.
Avant de faire mon stage en troisième, j'avais écrit pour embarquer. Déjà, je voulais faire mon stage sur la veille fondante. Et j'avais écrit au commandant de la veille fondante. Et qui m'avait répondu. Commandant Sévère à l'époque. Et j'étais trop fière, quoi. Il m'avait répondu que c'était pas possible, mais j'avais une lettre écrite de sa main et tout, elle le cachait comme des vieilles enveloppes. Il m'avait dit, non, vous pouvez pas embarquer, mais par contre, il y a la porte ouverte. L'abbé Freud, c'était mes copines qui comprenaient rien à mon délire au lycée. Elles avaient écrit ça. L'abbé Freud. Abbé Freud, elle comprenait pas.
Marine Delmas, 37 ans. Lieutenante embarquée sur le remorqueur de haute mer, d'assistance et de sauvetage, l'Abeille Bourbon.
Je suis née à Brest, je crois que j'ai toujours aimé la mer. Avec mes parents, on naviguait petite sur le bateau qui était à mon grand-père, qui a mes parents aujourd'hui. C'était la découverte de la rade et de la voile en général. Personne dans ma famille n'avait fait la marine marchande. J'avais un arrière-grand-père qui pêchait sur les bancs en Mauritanie, qui pêchait la langouste. Ça partait de Camaret, les langoustiers à l'époque. Forcément, la mer, j'ai toujours entendu parler de ça, mais la marine marchande, non. Et pour autant, je pense, des petites, j'aimais bien quand on allait se balader au port de commerce, qui était à l'époque tout ouvert. Le port faisait vraiment partie de la ville. Il n'y avait pas de réglementation, enfin là on ne peut plus aller nulle part. Je me rappelle même d'une rédaction que j'avais fait en 6e. Et j'avais parlé d'un contexte sur le port, j'avais employé le mot la manœuvre, et le prof il m'avait souligné, il m'avait demandé ça veut dire quoi la manœuvre. J'avais déjà ce jargon-là un petit peu. Enfin, en 3e j'ai fait mon stage chez les pilotes à Brest. J'avais eu la chance de faire un départ avec un pilote. C'était un petit cargo allemand, on était parti du quai. Et à l'époque, du coup, c'était débarquement du pilote à Charles Martel, sorti du Loulet, quoi. Et juste en descendant, j'étais descendue à l'échelle du pilote. Et puis il m'avait donné, je me rappelle, une tablette de chocolat. J'étais une gamine. Et à 18 ans, je savais que j'avais envie de faire l'hydro. École de la marine marchande. École nationale de la marine marchande, aujourd'hui l'appellation a changé, École nationale supérieure maritime. J'ai tenté le concours l'année du bac que j'ai pas eu, donc j'ai été faire la prépa à Cancale, les rimes. En 2004, j'ai eu le concours et je suis arrivée à l'hydro à Marseille. À l'époque, on embarquait dès la première année, c'était variable entre 1 et 3 mois. J'ai embarqué à la MERS, boîte de porte-conteneurs, ils avaient deux bateaux français, ça a pas duré longtemps sous pavillon français. Donc à 18 ans, j'ai embarqué, c'était prévu comme ça, à Los Angeles. Mais vraiment, j'étais toute jeune, quoi, quand j'y repense. Donc mes parents, c'était pendant les vacances de Noël, ils m'ont amené à l'aéroport à Toulouse. Et puis j'ai pris un Toulouse-Paris, et puis Paris-Los Angeles. Et le bateau, il partait directement transpacifique. Je me rappelle, on avait vu les allées Lucienne, là, on était passé tout par le nord. Et après l'Asie, Dubaï, on revenait pas. Tu l'as, ouais. Ouais, donc de se figurer un peu tout ce que pouvait être ce métier, tous les clichés que ça peut représenter. Enfin, c'était 5 nationalités à bord, j'étais la seule nana. Mais peu importe, toi, ça m'a plu et puis derrière, j'ai continué. Deuxième année, troisième année, les embarquements, ça s'est enchaîné comme ça. Que dès l'enfance, moi, j'étais un peu fascinée forcément par la baie Flandre. C'était vraiment un peu un bateau mythique dans l'imaginaire des gens, enfin, qui moi, m'interpellait, auquel je pouvais penser, enfin, ce bateau, et les lectures que j'avais pu faire. J'ai postulé une ou deux fois chez eux, ça n'a jamais fonctionné, et quand je suis sortie de cinquième année en 2012, l'armement m'a appelée pour savoir si je pouvais embarquer comme officier, comme lieutenant, pour un remplacement, un contrat coin. Et du coup, j'ai dit, bah oui, j'arrête. Donc la baie Bourbon, c'est un RIAS, remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage. Le bateau, il est connu parce qu'il est visible au Quai Malbert. Oui, c'est une institution brestoise. Un peu naïvement, on a envie de dire bah, parce que c'est le seul bateau quelque part qui va sortir quand tous les autres rentrent, quand il fait pas beau. Après, il y a eu aussi une photo un peu sensationnelle parce que c'est ça. C'est pas tous les bateaux qui vont sortir par mauvais temps et... Et c'est en ça que ça le rend atypique.
Bonsoir. Ah vraiment, nous sommes trop gâtés et ça commence à suffire. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des pétroliers au large et qui s'échouent sur nos côtes bretonnes pour abîmer ce que nous avons de plus beau et ruiner la saison des pêcheurs. Nous ne sommes pas loin du record du monde de la pollution depuis ce matin, avec ce pétrolier libérien dont l'armateur est américain et l'équipage italien, et qui s'est échoué sur les récifs à 2 km au large de Port-Sal, sur la côte nord du Finistère. 15 km de côte seraient déjà pollués. Les fonds marins, les parcs à huîtres, sans parler du site touristique, sont touchés ou gravement menacés par la marée noire qui s'écoule lentement, paraît-il, mais sûrement, de 2 des cuves du pétrolier. Ce pétrolier, c'est l'Amoco Cadiz. C'est le 4e à endommager la Bretagne en 11 ans. Avant lui, il y a eu le Torrey Canyon, l'Olympic Bravery, le Bolen. Il circule en permanence 140 pétroliers de plus de 200 000 tonnes sur toutes les mers. Et la Bretagne en a assez d'être la côte de ces naufrages, de ces gros bâtiments, le dépotoir du pétrole brut. L'Amoco Cadiz a eu une avarie de gouvernail hier matin. C'est imparable sur un tanker de cette taille. Un remorqueur est venu à son secours, mais les filets ont cassé. La tempête a drossé le bâtiment sur les récifs. Depuis, c'est l'état-major de crise contre la pollution. Les gens de la côte sont au désespoir. Ils veulent qu'on mette le feu aux pétroliers, mais ça ne détruirait que 20 à 30% du pétrole contenu dans ses flancs. On a mis en place des barrages flottants. On envisage tous les moyens de lutte contre la marée noire, mais les récifs empêchent les bateaux d'intervenir, comme on le voudrait. Le bateau est coupé en deux depuis ce matin. Il va falloir pomper sans doute. L'équipage a été évacué, pas de victimes. Le capitaine italien pleurait, les Bretons aussi pleuraient, encore plus que lui. J'ai appris cet après-midi que si les pétroliers passaient si près des côtes, dans un passage réputé difficile depuis toujours, c'était pour des questions de rentabilité. Les armateurs se refusent à effectuer le détour qui s'imposerait. Il y a des moments où il faut choisir et se montrer ferme, n'est-ce pas ? Bref, c'est insupportable, ça dépasse l'entendement.
La société les abeilles internationales, ça a été créé à l'issue du naufrage de l'Amoco Cadiz. Une marée noire de cette envergure qui avait ravagé le littoral des côtes bretonnes finistériennes. L'État français a décidé de mettre en place une protection de ces côtes. Donc, il y a un armement privé qui a été retenu, mais affrété par la marine nationale. Du coup... que des marins civils, marines marchandes et non pas militaires, employés par la société Les Abeilles, mais armés par la marine nationale, donc aux ordres des préfectures maritimes. Et qui avaient donc pour vocation d'assurer la protection des côtes sur tout le pourtour français. Aujourd'hui, il y a 4 stations. Il y a un bateau qui est positionné à Boulogne-sur-Mer, c'est l'abeille Languedoc. Ensuite, il y a l'abeille Liberté qui est à Cherbourg, l'abeille Bourbon à Brest et l'abeille Flandre à Toulon. Et ils ont un bateau également plus axé sur l'exercice marine national qui est le jason. Le remorquage s'est pané avec des abeilles, mais il y avait plusieurs sociétés qui étaient en concurrence. Et finalement, le passage de remorque, ça a pu mal se passer parce qu'il y avait trop de discussions commerciales. Et c'est ça qui a dû mettre la pagaille dans pas mal d'histoires maritimes qui se sont un peu mal terminées. Et donc, ils se sont dit, bah oui, on va désigner un seul et même armement. Si le préfet maritime estime qu'un bateau représente un danger pour les côtes françaises, il peut donc décider d'une mise en demeure, mettre en demeure le bateau on a Paris, qui veut dire qu'il a obligation de prendre l'armement, sous peine d'être arraisonné. Le bateau, il est, si on parle de la baie Bourbon, il est quai Malbert, et à partir de 25 nœuds de vent, la préfecture appelle pour faire appareiller le bateau, pour le positionner plus près du rail, sur le rail d'Ouessant 100. Et c'est pour gagner du temps si jamais tu dois intervenir. Rail d'Ouessant 100, c'est un dispositif de séparation de trafic, des dispositifs de séparation de trafic des rails. Il y en a un peu partout dans le monde. Et celui d'Ouessant 100, qui voit combien de pourcents des bateaux de la flotte mondiale, mais un sacré nombre, et ben ça permet que ce ne soit pas l'anarchie en fait sur la mer, et que ce soit comme sur une autoroute. On monte dans un sens, on descend dans l'autre et on ne fait pas n'importe quoi. On ne traverse pas dans tous les sens. Donc le bateau, pour le positionner plus près du rail, qui va se mettre soit à camarer si tu as du sud-ouest 25 nœuds. Après tu choisis en fonction du vent, donc tu choisis ton abri, camarer 25 nœuds. Sud-ouest, bah, t'es planqué. Entre 25 et 30 nœuds, le bateau va aussi se positionner à Berthaume, hein, ou ça peut arriver au Blanc-Sablon. Et après, quand c'est un peu plus fort, 30 nœuds, la Bourbon va prendre son... Il y a un coffre au Stiff, dans la baie du Stiff, à Ouessant. Ils ont une grosse tonne, donc ils vont aller là-bas jusqu'à temps que l'orage passe. Et si tout va bien, bah, ils sont restés X heures, X jours en général au coffre. Et puis, si ça se passe pas bien, bah, ils vont en intervention. En cas de gros problème, bah, ça fait gagner du temps. On gagne camaré 40 minutes, ou Ouessant, c'est plus que ça, on gagne une heure et demie, je dirais. Ouais.
Les vrais marins sont des gens modestes, ils savent que la mer est toujours la plus forte. Mais ici, à Ouessant, ils sont plus modestes encore, parce qu'ils se méfient, et ils ont raison de se méfier. Ouessant, l'île du bout de notre monde, au large de la Bretagne, c'est l'île Sentinelle, la dernière avant l'infini. Elle est plus que belle, Ouessant. Les cartes postales ne mentent pas, elles nous disent que les hommes ont jugé bon d'encercler l'archipel de balises, de phares, de tourelles. Car pour les marins, Ouessant, c'est ça. À la croisée des mers, où l'océan vient s'étrangler, les vents sont plus sauvages, les courants plus furieux, les brisants plus aigus, c'est le Cap Horn de l'Europe. Et ces cartes postales-là, vous ne les trouverez pas en kiosque, il faut aller les chercher soi-même. Rares sont les points du globe où les catastrophes furent aussi meurtrières, mais aujourd'hui, la carte des sauvetages s'est substituée à celle de naufrage. J'ai voulu comprendre pourquoi. Ce fut une sacrée croisière, une croisière de plein hiver, à bord d'un des plus puissants remorqueurs du monde. L'abeille flambe, qui garde Ouessant comme on garde un trésor ou un stock de nitroglycérine.
Se figurait le château avant, la grosse superstructure avec les ponts et puis une grande plage arrière où se passeront les opérations de remorquage. C'est un bateau qui mesure 80 mètres, 16 mètres de large à peu près, et qui a un tirant d'eau, donc la hauteur sous la flottaison, sous la mer, de 6 mètres à peu près. C'est un bateau puissant, très puissant pour sa taille, qui a 4 moteurs de propulsion, 4 moteurs diesel, chacun couplé sur une hélice, donc il y a deux hélices. Des hélices à pas variables, on dit, qui le rendent manœuvrant. Plus deux propulseurs à l'avant, deux propulseurs à l'arrière. Donc ça en fait un bateau qui est très manœuvrant, très puissant. C'est ce qu'on lui demande. Équipé de sa remorque 80 mm de diamètre. Donc oui, c'est ça peut tirer du gros bateau. Un bateau construit en Norvège. Chacun a une cabine, les 12 membres d'équipage, deux carrés séparés. C'est vieille école, quoi. Vieille marine. Chacun mange dans son carré. Les officiers d'un côté, l'équipage de l'autre. Les 12 membres d'équipage de la Bourbon embarquent pour un mois. Chacun doit rejoindre le bateau s'il est hors quart et qu'il est parti à terre pour raison personnelle. Doit rejoindre le bateau. Il y a un ordre d'appareiller. C'est en 40 minutes que le bateau doit quitter le quai. Donc les moteurs sont toujours en préchauffage, hein, ce qui permet de démarrer des moteurs chauds et de partir rapidement. Au pont, en passerelle, il y a un commandant, un second, un lieutenant. Chacun fait 8 heures de quart par jour, 2 fois 4 heures. Ensuite, sur le pont, il y a un maître d'équipage, donc on appelle ça un bosco. Un bosco, un maître de manœuvre et deux matelots. Et ensuite, en machine, il y a un chef mécanicien, second mécanicien, maître électricien, maître machine et un cuisinier. Moi, j'étais lieutenant. Donc le lieutenant hors opération, il prend le quart de minuit à 4. Et même à quai, en fait, il y a toujours quelqu'un qui veille. Par contre, là, on dédouble les quarts, on fait 2 heures. Il y a tout le temps quelqu'un en passerelle qui veille le téléphone. Donc c'est quand même un bateau qui est pas mal en attente, mais pour autant, chacun a fait son quart, a ses tâches propres. Pour ma part, lieutenant, j'avais en charge de m'assurer que les cartes, la correction des cartes et que les appareils de navigation, que tout ça, c'était à peu près en état de fonctionner. Pont, entretien des aménagements, des extérieurs, à la machine, tout l'entretien machine. Donc chacun a quand même ses tâches bien définies. Cuisinier, bien sûr. Moi, j'aimais bien aller traîner en cuisine. Bah, de toute façon, la cuisine, c'est un peu là. Si t'es au courant de rien, tu vas en cuisine en général, et ben, t'as toutes les infos du bord. Le coup de fil, il vient de la préfecture maritime, comme le centre opérationnel de la marine. C'est eux qui vont ordonner à l'abeille d'appareiller pour aller sur zone s'ils estiment qu'il faut être vigilant et. Peut-être que le remorquage ne sera pas décidé dès le moment où le bateau appareille. C'est arrivé que le bateau aille sur zone et qu'il n'y ait pas de remorquage en définitive, mais dans la plupart du temps, le déplacement n'est pas pour rien.
Nous avons appareillé en 10 minutes et débordé la pointe qui nous abritait. Maintenant, la danse commence. Nous longeons au plus près la côte nord de l'île, la plus rude, dont Carlos connaît chaque caillou, à la rencontre du Cap Raya. Mais ça ne va jamais très vite, un bateau. Même avec 20 000 chevaux lancés au galop, nous filons un peu plus de 15 nœuds, un peu plus de 25 km/h. Le courant nous pousse, mais nous avons le vent dans le nez, d'où ces vagues courtes et hargneuses dans lesquelles nous passons en force. L'abeille en a vu d'autres. C'est le seul bateau tout temps de la zone, le seul qui continue à faire route quand les autres s'abritent ou fuient, quand les hélicos sont cloués au sol. Nous avons le Cap Raya au radar et nous commençons à comprendre. Son commandant en a eu assez de rouler terriblement, encaissant la mer de travers sur le rail. Il s'est permis d'enfreindre les règles, de modifier son cap pour prendre les vagues par l'arrière et fatiguer moins. Mais il n'a pas pensé que le vent le rabattrait vers l'île et que les hauts fonds l'aspireraient en direction des brisants. À la passerelle de l'abeille, guettant l'écho du radar, on est partagé entre la rage et la crainte. Mais la règle absolue est de ne pas céder à l'excitation. On garde son adrénaline pour soi. C'est obligatoire et c'est nécessaire. Encore 20 à 30 minutes de route, et ces hommes là-bas, malgré les mises en garde d'où est son trafic, savent-ils seulement qu'ils jouent avec la mort? Les rochers le long de cette côte ressemblent à des crocs, à des dents prêtes à mordre. Aucun acier n'est assez dur pour ces mâchoires-là. Manifestement, le commandant du Cap Raya ignore que la petite île de Keller, bien visible par ce temps à grains et qu'il croit doubler sans problème, est prolongée par une chaussée sous-marine, un semis de roches sur lesquelles il va s'éventrer. Il faut imaginer les dangers du dessous, les montagnes que la mer cache et qui déchirent les coques sournoisement.
Moi, je crois que j'ai eu de la chance finalement, parce que j'ai pas une longue carrière non plus aux abeilles, mais quand j'avais fait mon embarquement d'élèves à Cherbourg, on avait fait un bateau devant, pas très loin, là, devant la grande rade. Et après, sur la Bourbon, j'ai dû embarquer première fois à l'automne, en novembre. Et dès le premier embarquement, il y a eu une intervention. Et puis en juin, d'après. Deux remorquages différents. Dans mon souvenir, on est parti sur un bateau. Je pense qu'on était en météo à Camaret. D'alerte météo. Et il fallait partir sur un bateau qui était dans le rail, quoi, au large de Ouessant. C'était un braquier, dans mon souvenir, une petite centaine de mètres. Du coup, on va dessus. Chacun sait ce qui l'attend. Donc, ce qui va se passer, c'est avec les caractéristiques du bateau, la position, de là où il va se trouver. Il y a pas mal de choses à intégrer, en fait, pour savoir les conditions de mer, de vent, quelles remorques, en fait, ils vont gréer. C'est ça qui est pas simple. Donc, le Bosco, il monte en passerelle. En général, c'est ça, Bosco, second, commandant et le chef, quoi. Ils vont tous se concerter pour savoir quelle remorque gréer. Donc, la remorque, c'est le câble qui va tirer le bateau, qui, en l'occurrence, sur la Bourbon, c'est 80 mm. C'est quand même un gros câble d'acier. Et au bout de cette remorque, on va venir mettre une pantoire qui est un plus petit câble de longueur variable et de diamètre variable, mais forcément de diamètre inférieur. Et en gros, ça va servir de fusible si jamais le câble vient à rompre. C'est pas la remorque en elle-même qu'il faudra couper, mais c'est la pantoire qui va sauter. Ce qu'il faut faire, c'est décider de la pantoire à définir suivant la taille du navire, les conditions de mer, les conditions de vent. Donc une fois que c'est décidé, le temps que le bateau aille sur zone, et ben en général l'équipe sur le pont, le Bosco, maître de manœuvre, les matelots, et ben ils vont aller gréer ça. Donc les remorquages, c'est pas nécessairement par mauvais temps la plupart, mais là le bateau en question faisait un peu, c'était pas terrible, il faisait pas très beau. Donc derrière faut faire gaffe, même pour autant la remorque elle est pas passée, mais il faut quand même que les gars ils soient vigilants. Donc ils accrochent la pantoire à la remorque et puis ils vont présenter ça comme il faut sur la plage arrière. Le bateau va arriver sur le bateau à remorquer. En amont, il y a eu des contacts qui ont été établis par VHF, téléphone, enfin tous les moyens qui permettent d'échanger pour expliquer comment la veille va se présenter, de quel côté, comment voilà, le commandant va expliquer comment est-ce qu'il envisage sa manœuvre. C'est là où, des fois, dans le meilleur des cas, il n'y a personne qui sera envoyé à bord sur le bateau en avarie. Donc à la pantoire, on a accroché un petit filin, c'est un petit bout, une petite ficelle, et on va tirer au pistolet à air comprimé. Petit pistolet, il y a quelqu'un qui tire plage arrière et qui va envoyer une espèce de petite torpille. Il y a un petit filin qui est accroché, ça déroule, pas mal de longueur, et ça arrive facilement sur le bateau en avarie. Et après, en fait, le meilleur des cas aussi, c'est que sur le bateau remorqué, ils ont une source d'énergie qui va leur permettre de virer ce petit filin derrière lequel il y a une haussière, il y a la pantoire, etc. pour passer la remorque. Et des fois, c'est pas le cas. Donc, c'est là où ça se complexifie. Donc, à ce moment-là, il faut que des gens de la veille aillent avec le petit bateau, le mobile, le bateau rapide. Ils vont aller sur le bateau en avarie, deux personnes en général, pour faire un système de va-et-vient. Ça veut dire qu'on va faire un aller-retour en gros et que tout le train de remorque sera viré depuis la baie, puisque eux à bord ne peuvent pas le faire. Donc dans le remorquage en question, c'était ça qui avait dû se passer. Devant, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de guindeau, il n'y avait plus de treuil. Et après, dans des cas très compliqués, il se peut que la manœuvre se fasse conjointement avec un hélicoptère, avec la marine nationale. Ou s'il fait trop mauvais et que les gens de la baie ne peuvent pas aller, ça se fait par hélico. C'est vraiment une situation très défavorable. Souvenir, c'était des gens de la baie qui étaient allés, on passe la remorque, les marins finalement du bateau assisté restent sur le bateau. C'est assez rare où il faut évacuer, mais ils l'ont fait. Hein. Il faut évacuer les marins parce que c'est pas sécu et qu'il faut qu'ils viennent à bord. Le bateau est prévu pour recevoir pas mal de monde. Premier remorquage, j'étais descendue et j'étais restée derrière, planquée sous le roof avec le Bosco et je me rendais compte un peu de l'état plage arrière et j'étais même restée le temps que tout ça déroule. Donc au bout de cette grosse remorque, il y a cette grosse, t'as une manille orange là, on appelle ça la soquette sur laquelle il va venir se frapper la pantoire. Et ça, ça peut faire un fort ballon. Et... du haut, t'as du recul, t'aurais envie de leur dire, mais c'est pas là qu'il faut te mettre. Et quand t'es eux dans le en bas, c'est moins simple de se rendre compte. En théorie, le lieutenant est censé gérer les communications un peu avec l'extérieur. Ça sonne un peu de partout. Enfin, il faut un petit peu échanger et puis après faire une prise de notes aussi des événements marquants pour rédaction derrière pour le moment du rapport de mer. Moi, j'étais forcément dans l'observation vu que c'était mes premiers remorquages. Et puis, il commence à dérouler. Voilà, on déroule le câble, la remorque. Ça, ça prend un peu de temps pour établir le convoi en fait du bateau remorqué du remorqueur. C'est pareil, tout ça c'est calculé, on déroule pas le cap qu'on veut, il y a des abacs qui permettent de savoir quelle longueur faut dérouler. C'est le chef mécanicien qui gère le treuil. Donc il est en passerelle aussi et c'est lui qui va gérer de dérouler la remorque, la tension, tension constante, enfin il y a plusieurs options possibles. En fait, toutes ces manœuvres, elles se font depuis la passerelle arrière. Et le bateau, on regarde non pas vers l'avant, mais vers l'arrière au moment de passer l'arme. Dans ce cas présent, entre le moment où l'abeille est arrivée et où on a commencé à tirer, c'était peut-être 4-5 heures. Chacun sait ce qu'il a à faire. Là où la vigilance est grande, c'est vraiment quand la remorque va être passée. Le commandant... lui, manœuvre depuis la passerelle, et c'est vrai que la vue, elle est bonne, mais quand ça commence à tirer, quand l'eau rentre par les dalles, enfin, ça brasse pas mal derrière, et il faut faire gaffe que quelqu'un passe pas à l'eau, en fait. T'es pas à l'abri quand tu commences à établir, à dérouler l'ossière qui va, et la pantoire qui va venir se frapper sur la vitre d'amarrage de l'autre côté. Si t'as de la mer, t'as une variation de hauteur entre les deux bateaux qui n'est pas négligeable. 3, 4, 5 mètres. Il faut bien regarder le ballon de la remorque aussi d'un bord et de l'autre. Même s'il est d'alo et l'eau va s'évacuer bien sûr et que tu as quand même des grilles et des barres, le mec il peut juste se faire prendre par une vague et c'est la grosse piscine plage arrière et voilà. Et passer par-dessus bord. Et ça peut arriver à ce moment-là. Qu'il y en ait un qui se fasse, qui se soit pas planqué comme il fallait et qui se prenne un coup de cette remorque qui n'est pas encore établie dans l'axe, plus personne sur les côtés, qui est en train de partir, sur un coup de gîte, de ballon, de ce que tu veux, qui se la prenne en pleine pomme.
Je vais être
dessus, je vais être
dessus, je vais être dessus. Un de mes navires. Et voici en face, pour un bulletin météo spécial large, une dépression. À 955 hectopascal, menace de force 11, violente tempête, demain dimanche avec une très grosse mer.
Par exemple, est-ce que vous ne vous attachez pas avec des harnais quand vous êtes en train de travailler sur le pont?
C'est pas pratique. Et puis si tu vois le paquet de mer arriver par exemple sur l'arrière, on va se cacher derrière le treuil. Alors t'imagines, je suis amarré là, je peux pas aller derrière. C'est pour ça qu'on veut pas ni avoir de harnais, on veut pas s'amarrer.
Alors comment tu fais avec tes gars?
Déjà, je les place, puis depuis le temps chacun sait à peu près son poste, à part quand il y a des nouveaux. Sinon, y a toujours un qui regarde derrière. Et puis dès qu'il voit le paquet de mer arriver, si on se met derrière le treuil, ou alors on s'accroche au mât courante, et puis comme on dit, on fait drapeau.
Tu veux dire, vous partez à l'horizontale, toi?
Ouais. Et puis, bon, bah, après, tu retournes, puis... Mais bon, bah, ça, depuis le temps, on a l'habitude, quoi. Quelquefois, on part quand même avec. Hein. Alors, t'embrasses le rouleau, t'embrasses la lisse, n'importe quoi.
Oui, c'est pas les meilleurs souvenirs, quand même.
Ah non, mais ça... Bon, bah, t'as des bleus, c'est tout.
Et après, le convoi s'établit, donc là, pareil, tout dépend, on est sur mer devant, mais 4-5 nœuds, 5 nœuds, c'était pas mal, quoi, comme vitesse. Et après, du coup, il avait été ramené à Brest. Alors là, donc, quand t'es en approche, t'as les remorqueurs portuaires qui sont là, bah, le pilote, faut larguer la remorque avec la veille, et que ce soit les remorqueurs portuaires qui prennent le relais, de façon à aller coller le bateau au quai... Le bateau en question qui n'est toujours pas manœuvre. Donc ça, c'est des manœuvres un peu périlleuses. Après, c'est les deux armements qui vont se parler, en fait. Ils vont se parler gros sous. Le commandant va rédiger son rapport de mer. Et une fois que les remorqueurs portuaires prennent le relais, le bateau arrive, il l'amène le long du quai, amarré, et nous, on ne sait plus ce qui se passe. Voilà. Ça s'arrête là. Plusieurs types de contrats en fait qui sont possibles entre le bateau assisté et le remorqueur. Et après, l'équipage touchera un pourcentage de ce contrat. Ce pourcentage, ça représente donc une somme que tu divises en parts et chaque fonction a un certain nombre de parts. Sans part l'équipage, le commandant en avant, quand je dis n'importe quoi, ça représente une petite somme pour chacun. Ils ont une vocation commerciale aussi, les abeilles. C'est un armement affrété Marine Nationale, mais c'est aussi un armement donc, privé, hein, qui peut passer lui-même ses propres contrats. Il peut faire du profit. Enfin, ça reste voilà, une entreprise privée. Tous les remorquages ne se font pas forcément aux ordres du préfet maritime. Ça reste à la marge des remorquages commerciaux, mais ça peut quand même se faire. Il y a le cas de la mise en demeure, où là, réellement, c'est juridique. L'abeille a obligation d'aller passer la remorque et le bateau en avarie a obligation de la prendre. Mais après, il y a le fait qu'il n'y ait pas forcément de mise en demeure, mais que le bateau est réellement en incapacité d'avancer par lui-même. Et du coup, le bateau en avarie va passer un contrat commercial avec la société des abeilles. On est tous marins de commerce, mais on n'a pas de formation pour devenir marin spécifiquement sur un remorqueur. Donc ça s'apprend, c'est un métier qui s'apprend sur le tas. Et chaque remorquage est différent, et chaque bateau sur lequel on va est unique. Il ouais. N'y a pas deux manips pareils. Dans la plupart des cas, ça marche plutôt bien. Évidemment, puisque tu viens prêter assistance. Enfin, quelque part, les pauvres marins sur leur bateau, ils n'ont pas trop le choix. Tu devines des armements bien véreux derrière. C'est ça, les marins, ils sont dans la merde. Et eux, ils sont en train de discuter le bout de gras, de savoir... mais c'est plus que t'as l'armateur derrière qui dit, bah non, nous, on va payer pour le moins, quoi. Donc, débrouille-toi pour faire au moins cher. Faut pas que ça nous coûte. Et c'est clairement l'équipage qui se retrouve en porte-à-faux à trinquer de tout ça. Ouais, je pense que si on faisait des statistiques, les bateaux remorqués, enfin, en avarie, c'est un peu la lie de la flotte mondiale, je pense. C'est des bateaux un peu minables, qui certes ont les certificats pour naviguer et tout ce que tu veux, mais des situations pas simples, des gens qui vivent à bord. C'est un peu paradoxal de dire j'ai eu la chance de faire deux remorquages parce que, en fait, derrière, la finalité, c'est qu'il y ait des bateaux qui fonctionnent plus et qui représentent un danger pour les côtes. Le fond du boulot, c'est ça, c'est d'aller chercher un bateau, donc mettre en pratique ce pourquoi on te paye et ce pourquoi tu fais ton métier. Mais ça reste assez malheureux dans les faits. Et j'ai eu la chance parce que, finalement, heureusement, mais il y a de moins en moins de remorquages. Vu que la flotte mondiale, elle a été décuplée pire que ça. Enfin, je ne sais pas combien de bateaux naviguent aujourd'hui, mais beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Et pour autant, il y a moins de remorquage parce que les bateaux sont mieux entretenus, parce qu'il y a plus de contrôle. Enfin, c'est vrai que j'ai pu entendre à bord des vieux de la vieille qui auraient aimé qu'il y ait plus de remorquage, carrément même. Bah oui, donc il y a pas mal d'attentes. Ça reste quand même un métier d'attente. Où il faut décoincer, quand il faut décoincer vite. Mais il y a plusieurs types d'attentes. Je trouvais que j'étais hyper privilégiée quand on allait à Ouessant, au large de Brest. Bah déjà parce que c'est une île mythique. Enfin, mythique, moi j'aime cette île. À Ouessant, généralement, il n'y avait même pas. Le réseau, ça passait pas et c'était très bien. Les gens se parlaient. Il y a l'île de Molène, à la toute pointe Finistère, à une heure à peu près de bateau du Conquet, qui est tout au bout du bout. Bout de la pointe Finistère. Et Ouessant, c'est à 15 000, quoi. Et c'est, il y a combien? Ils sont 800 à vivre à l'année sur l'île d'Ouessant, entourés de phares mythiques. C'est tout un imaginaire, en fait. Ces phares. Par vent de nord-ouest, quand ça tourne trop, ça rentre là où l'on rentre dans la baie du Stiff, et le bateau faisait des allers-retours dans le front vert. Tout doux, là, vraiment toute petite vitesse. Chenal du front vert. Donc le chenal du front vert, c'est entre Ouessant et Molène. C'est un des endroits où il y a beaucoup de courant, en tout cas en France. Tu vas d'un bord ou de l'autre, oui, tu le fais pas à la même vitesse. Ouais. T'as deux phares, le phare de la Jument et le phare de Quéréon. Deux ouvrages magnifiques qui sont beaux et qui sont là dans la mer. Et le Quéréon, il s'était éteint dans le front vert. Alors moi, je passe le quart au second. Et là, c'est ça, le Quéréon, il s'était éteint, donc c'était un peu déroutant. C'est surtout une zone, oui, qui est pas sympathique, en fait. C'est hostile. C'est plus rude. Il y a pas mal de falaises. C'est bordé par la chaussée de Keller, là, des cailloux. Et le phare du Créache, ce phare rayé, blanc et noir. Une île entourée de cailloux pas sympathiques et qui, à l'époque, du coup, avait été bien dotée de phares en mer. Parce que des naufrages, on a eu un paquet. Et donc, au 19e siècle, début du 20e, fin du 19e, même peut-être avant, je sais pas exactement les dates, mais ils ont construit des ouvrages magnifiques. Des phares en mer pour assurer la protection des côtes. Qui voit Ouessant voit son sang, qui voit Molène voit sa peine, et qui voit ça voit sa fin. Sur un bateau, c'est un condensé de gens qu'on rencontrerait pas forcément. Si, pas dans la vraie vie forcément, mais il y a un peu de tout type de personnes et c'est ce mélange qu'il faut rendre harmonieux, en tout cas le plus harmonieux possible. Et on vit tous les uns les autres sur une période d'embarquement, ce qui implique que même hors des temps de travail, t'es obligé de t'intéresser un minimum à l'autre, quoi. Donc tu noues des relations un peu différentes. Des rencontres humaines assez. Des personnages forts en caractère ou en couleur. Mais ce qui manque, c'est des femmes. C'est parce que c'est trop marginal, en fait, le nombre de femmes encore aujourd'hui dans la marine marchande, qui fait que, du coup, quand il n'y en a pas beaucoup, ça stigmatise un peu le modèle dans la profession. Enfin, alors que si on était plus nombreux sur les bateaux, tout ça, c'est dilué et finalement, on fait pas cas de rien. Il y a encore un peu de travail à faire là-dessus, aux abeilles, ouais. Parce que moi, j'ai eu mon premier enfant chez eux. Ils n'avaient jamais entendu parler du congé maternité, du congé parental, tout ça. Et je pense que là, l'étiquette maternité, ça m'a pas... J'ai ressenti plus ma condition de femme et la posture un peu misogyne, je pense, de l'armement et de certains navigants plus affichés que quand t'es la nana un peu sans attache, enfin qui est là finalement pour son travail comme n'importe quelle autre marin. La donne avait changé pour alors et on m'a pas facilité le travail. J'ai été la première nana en CDI et la dernière en fait. Il y a un peu de chemin à parcourir sur la place de la femme dans la marine marchande. Parce que c'est pas du tout dans les faits un métier réservé aux hommes. Mais même la marine marchande en général. La mer me manque, ça je sais, parce que j'en suis loin. L'attirance, elle est très rapide et la déconnexion, elle est assez immédiate. Même quand on partait petite, du coup, avec mes parents sur le bateau familial, et ben, il suffit pour moi de quitter le ponton et d'aller déjà de monter sur le bateau. Tu quittes le ponton et tu vas mouiller de l'autre côté de la rade. T'es juste sur l'eau, c'est une déconnexion. Et puis bah quand t'es sur la mer, ouais, bah, c'est une grosse liberté, c'est beau. L'élément qu'on dominera jamais, qui te force l'humilité, enfin. Oui, c'est ça, on n'est pas grand chose. Et puis c'est magnifique, quoi. Ouais, je m'y sens bien.
L'abeille Bourbon, véritable Saint-Bernard-des-Mers, continue sa mission au large de Brest. Quant à l'abeille Flandre, elle partira bientôt à la retraite et sera remplacée par de nouvelles abeilles, l'abeille Méditerranée et l'abeille Normandie. De son côté, Marine s'occupe maintenant de la logistique des navires de la flotte océanique française. Retrouvez le portrait de Marine sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, embarquez à bord de la station sous-marine des expéditions Gombessa.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.